Walter Scott, Le miroir de la tante Marguerite. En exergue anonyme. Il y a des instants où l'imagination s'égare, en dépit de la surveillance de notre raison, où la réalité semble une ombre, où les ombres semblent des corps, où la barrière immense qui sépare la vérité de la fiction semble renversée, comme si les yeux de l'âme pouvaient pénétrer par-delà les limites de notre monde. Je préfère ces heures de vagues rêveries à toutes les tristes rêveries de l'existence. Introduction. Ma tante Marguerite appartenait à cette respectable classe de sœurs à laquelle sont dévolus tous les soucis, tous les embarras qu'occasionnent les enfants, excepté toutefois ceux qui sont attachés à leur arrivée dans le monde. Notre famille était nombreuse et composée d'enfants de différents caractères ainsi que de différents tempéraments. Quelques-uns étaient tristes et de mauvaise humeur. On les envoyait à la tante Marguerite afin qu'elle les amusât. D'autres étaient brusques, impétueux et turbulents. On les envoyait à la tante Marguerite pour qu'ils se tinssent tranquilles, ou plutôt pour se débarrasser de leur bruit. On lui envoyait aussi ceux qui étaient malades afin qu'elle les soignât, ceux qui étaient obstinés afin qu'elle les soumît par la douceur de ses réprimandes. Enfin, elle remplissait tous les devoirs variés d'une mère sans avoir l'honneur et la dignité du caractère maternel. Le terme de ses soins est venu. De tous les enfants languissants ou robustes, doux ou acariâtres, tristes ou enjoués, qui s'agitaient dans son petit salon depuis le matin jusqu'au soir, aucun n'existe maintenant, excepté moi, qui, affligé par des infirmités précoces, leur ai cependant survécu. C'est encore et ce sera mon habitude, tant que j'aurai l'usage de mes membres, d'aller rendre visite à ma respectable parente au moins 3 fois par semaine. Sa demeure est à environ 1/2 mile des faubourgs de la ville que j'habite. Elle est accessible non seulement par la grande route dont elle est à quelque distance, mais encore par un chemin couvert de gazon et conduisant à travers de jolies prairies. J'ai si peu de tourments dans la vie qu'un de mes plus grands chagrins et de savoir que plusieurs de ces champs écartés sont destinés à recevoir des bâtiments. Dans celui qui est le plus près de la ville, j'ai vu pendant plusieurs semaines un si grand nombre de brouettes que je crois en vérité que toute sa surface, à une profondeur de 18 pouces au moins, fut dans le même moment élevée sur ses chars à une roue et transportée dans un autre lieu. D'immenses piles triangulaires de planches sont entassées dans différentes parties de la prairie condamnée, et un petit bouquet d'arbres ornant encore le côté oriental qui s'élève par une pente douce vient de recevoir son arrêt de mort annoncé par un barbouillage de peinture blanche, et ces arbres doivent faire place à un groupe de cheminées. Peut-être d'autres s'affligeraient dans ma position en pensant que ces pâturages appartenaient autrefois à mon père, dont la famille jouissait de quelque considération dans le monde, et qu'elle fut vendue par morceaux pour remédier à la détresse dans laquelle il se plongea, en essayant, par quelque entreprise commerciale, de réparer sa fortune diminuée. Tandis que les projets de construction étaient en pleine vigueur, ses amis, qui prennent bien soin que la moindre de leurs infortunes n'échappe à notre attention, me disaient souvent: oh, de tels pâturages situés si près de la ville rapporteraient en avets et en pommes de terre 20 livres sterling par arpent. Et s'ils étaient vendus pour construction, mais c'était une mine d'or. Et cependant, l'ancien propriétaire s'en défie pour une bagatelle. Mes consolateurs ne peuvent réussir à exciter mes plaintes sur ce sujet. Et s'il pouvait même être permis de porter mes regards sur le passé sans y rencontrer d'obstacles, j'abandonnerai volontiers la jouissance de ma fortune présente et mes espérances futures à ceux qui ont acheté ce que mon père a vendu. Je regrette les altérations du sol, seulement parce qu'elles détruisent les souvenirs, et j'aimerais mieux, il me semble, voir les clos du comte entre les mains d'étrangers, s'ils conservaient leur aspect champêtre, que de savoir qu'ils m'appartiennent, si j'étais ravagé par l'agriculture ou couvert de bâtiments. Mes sensations sont celles du pauvre Logan. Gazon de mon enfance, ami consolateur, théâtre de mes jeux, verte et douce prairie. Vous avez disparu sous un soc destructeur, et la hache a détruit l'aubépine fleurie, où l'écolier joyeux cherchait avec ardeur contre les feux du jour un abri protecteur. J'espère cependant que l'horrible dévastation ne sera point consommée pendant ma vie. Quoique l'esprit d'aventureux de l'époque ait fait concevoir le projet de cette entreprise, je suis fondé à croire que les mécomptes qui ont eu lieu ont un peu refroidi les spéculateurs et que les plaintes boisées et le petit sentier conduisant à la retraite de la tante Marguerite seront épargnés pendant le reste de mes jours et des miens. J'y suis intéressé puisque chaque pas du chemin, après avoir traversé la prairie, est empreint de quelques souvenirs de mon enfance. Voici les chaliers où je me souviens qu'une petite fille revêche me reprocha ma faiblesse, en m'aidant avec négligence à escalader la barrière escarpée que mes frères franchissaient en bondissant. Je me rappelle l'amertume de ce moment, et convaincu de mon infériorité, le sentiment concentré d'envie avec lequel je regardais les mouvements aisés et les membres élastiques de mes frères, plus heureusement constitués. Hélas, ces barques si solides ont toutes péri sur l'immense océan de la vie, et celle qui semblait si peu digne d'être lancée à la mer a bravé la tempête et vogué jusqu'au port. Voici l'étang où, manœuvrant notre petite flottille construite en large jonc, mon frère aîné tomba et fut avec bien de la peine sauvé du liquide élément à mourir sous la bannière de Nelson. Voici le taillis de coudrier où mon frère Henri allait cueillir des noisettes, ne sachant point qu'il devait mourir dans une jungle indienne à la recherche de roupies. Il y a tant de souvenirs dans les environs du petit chemin que lorsque je m'arrête appuyé sur ma canne en béquille, et que je regarde autour de moi en comparant ce que j'étais autrefois et ce que je suis, je finis presque par douter de ma propre identité, jusqu'au moment où je me trouve en face du porche de chèvrefeuille de la demeure de ma tante Marguerite, demeure dont la façade est irrégulière et dont les gothiques fenêtres, projetant les treillis, donnent à penser que les ouvriers se sont appliqués à les construire entièrement différentes les unes des autres, par la forme, la grandeur, par la pierre d'entablement, d'un bout suranné, et les lamelles qui les ornent. Cette maison, jadis le manoir des Clos du Comte, nous appartient encore, car par quelques arrangements de famille, elle fut assurée à la tante Marguerite pendant sa vie. Cette propriété précaire est en quelque sorte la dernière ombre de la famille de Bothwell des Clos du Comte, et ce qui lui reste de l'héritage paternel. Lorsqu'à la mort de ma vieille parente, cette maison passera dans des mains étrangères, le seul représentant de la famille sera alors un vieillard infirme, voyant sans regret avancer la mort qui a dévoré tous les objets de ses affections. Lorsque j'ai donné arrière pendant quelques minutes à de semblables pensées, j'entre dans le manoir qui, dit-on, n'était qu'un pavillon du bâtiment primitif, et j'y trouve un être sur lequel le temps semble avoir peu d'empire. Et cependant, il y a autant de différence entre l'âge de la tante Marguerite d'aujourd'hui et celui de la tante Marguerite de ma première jeunesse qu'entre l'enfant de 6 années et l'homme de 56 ans. Mais le costume de la vieille dame ne contribue pas peu à persuader que le temps a oublié la tante Marguerite. La couleur brune ou chocolat de sa robe de soie, avec des manchettes au coude de la même étoile, entre lesquelles il y en a d'autres en dentelle de maline, les gants de soie noire ou mitaine, les cheveux blancs renvoyés en arrière sur un bourrelet, et le bonnet de batiste sans tache qui entoure une tête vénérable. Toutes ces choses ne composaient pas le costume de 1780, moins encore celui de 1826. Elles semblent être particulières à la tante Marguerite. Elle est encore assise où elle s'asseyait il y a 30 ans, avec son rouet ou son tricot, près du feu pendant l'hiver et à sa fenêtre pendant l'été. Ou bien elle se hasarde aussi loin que le porche, pendant les soirées les plus chaudes de la belle saison. Ses membres, semblables aux pièces solides de quelque mécanique, accomplissent encore les fonctions pour lesquelles ils furent destinés et agissent avec une activité qui diminue graduellement, mais qui n'indique point encore qu'elle soit sur le point de s'arrêter tout à fait. La sollicitude et l'affection qui rendirent la tante Marguerite l'esclave volontaire d'une multitude d'enfants ont maintenant pour objet la santé et le bien-être d'un homme vieux et infirme, le seul parent qui lui reste, et la seule personne qui puisse trouver de l'intérêt aux traditions qu'elle recueille, comme l'avare cache l'or dont il ne voudrait pas que personne puisse jouir après sa mort. Ma conversation avec ma tante Marguerite a rarement rapport au présent ou à l'avenir, car le passé possède tout ce que nous regrettons. Nous ne désirons rien de plus. Et pour ce qui doit suivre, nous n'avons de ce côté de la tombe ni espérance, ni crainte, ni inquiétude. Nous portons donc naturellement nos réflexions vers le passé, et nous oublions l'état misérable de notre fortune présente, la décadence de notre famille, en rappelant les heures de sa richesse et de sa prospérité. D'après cette légère introduction, le lecteur connaîtra de la tante Marguerite et de son neveu tout ce qui est nécessaire pour comprendre la conversation et la narration suivante. La semaine passée, par une soirée d'été assez avancée, je fus rendre visite à la vieille dame avec laquelle le lecteur a déjà fait connaissance, et je fus reçu par elle avec son affection et sa bonté ordinaire. Mais en même temps, elle semblait absorbée et disposée en silence. Je lui en demandai la raison. Ben, ils ont nettoyé la vieille chapelle, me répondit-elle. John Clay Jones ayant, il paraît, découvert que ce qu'elle contenait, oh, je suppose c'était les restes de nos ancêtres, convenait à merveille pour engraisser les champs. À ces mots, je tressaillis avec plus de vivacité que cela ne m'était arrivé depuis quelques années, et je m'assis, tandis que ma tante ajoutait, en posant la main sur ma manche, La chapelle a été longtemps regardée comme un commun, mon cher. On s'en servait pour la bergerie. Et que pouvons-nous reprocher à un homme qui emploie son bien à son propre usage? Outre cela, je lui ai parlé, il m'a promis très honnêtement que s'il trouvait des os ou des tombes, ils seraient respectés et remis à leur place. Que pouvais-je demander de plus? La première pierre sépulcrale qu'on a trouvée portait le nom de Marguerite Bothwell, 1585. J'ai ordonné qu'on la mît soigneusement de côté, car je pense que c'est pour moi un présage de mort. Cette pierre ayant servi à celle dont je porte le nom pendant 200 ans a été levée à temps pour me rendre le même service. Depuis longtemps, ma maison est en ordre en tout ce qui concerne les affaires de ce monde. Mais qui peut dire que sa paix avec le ciel est assurée? Mais d'après ce que vous venez de me dire, ma tante, répliquai-je, peut-être devrais-je prendre mon chapeau et m'en aller. Je le ferais si je ne m'apercevais pas que dans cette occasion il y a un peu d'alliage mêlé à votre dévotion. Penser à la mort dans tous les temps est un devoir, mais la supposer plus proche parce qu'une vieille pierre sépulcrale qui porte votre nom vient d'être trouvée, c'est une superstition. Et vous, dont le jugement et l'esprit juste ont été si longtemps les guides d'une famille déchue, vous êtes la dernière personne que j'aurais soupçonnée d'une pareille faiblesse. Et je ne mériterais pas vos soupçons, mon neveu, si nous parlions de n'importe quel autre accident de la vie humaine et qui eût rapport au présent ou à l'avenir. Mais pour tout ce qui regarde le passé, je suis coupable d'une superstition dont je ne désire nullement me corriger. C'est un sentiment qui me sépare du siècle et qui me lie encore à ceux que je vais retrouver. Et même ainsi qu'aujourd'hui, lorsque ces idées se présentent une tombe entrouverte et m'invitent à la contempler, je n'aimerais point les bannir de mon esprit. mais elles n'ont d'empire que sur mon imagination, qu'elles occupent doucement, sans influencer ma raison et ma conduite. En vérité, ma bonne dame, si toute autre personne que vous n'eût fait une semblable déclaration, j'aurais trouvé aussi capricieuse que le ministre qui, sans chercher à défendre son texte fautif, préférait par habitude seulement son vieux « num simus » au moderne « sum simus ». « Eh bien, répondit ma tante, il faut que j'explique mon inconséquence sur ce point en la comparant à une autre. Je suis, comme vous le savez, une de ces vieilles gens d'un autre monde qu'on appelle jacobite. Mais je suis jacobite de sentiments et de sensations seulement, car jamais sujet plus loyal ne joignit ses prières à celles qu'on adresse pour la conservation de Georges IV. Que Dieu lui accorde une longue vie, mais je suis persuadé que notre bon souverain ne penserait pas qu'une vieille femme lui fait injure lorsque, appuyée dans son fauteuil, par une clarté douteuse comme celle-ci, elle songe aux hommes courageux qui crurent que leur devoir les appelait à prendre les armes contre son grand-père. Et comment, dans une cause qu'ils supposaient celle de leur prince légitime et de leur patrie, ils combattirent jusqu'à ce que leur main fût collée à leur large épée. Mais, quoique la fortune leur fût contraire, leur courage ne put être abattu. Ne venez point dans un tel moment, lorsque ma tête est remplie de plaies, de pibroch, de claymore, demander à ma raison d'admettre ce que je crains. Elle ne pourra nier, c'est-à-dire que le bien public exigeait l'abolition de toutes les choses que je rêve. Je puis, il est vrai, refuser de reconnaître la justesse de votre raisonnement, mais, étant convaincu contre ma volonté, vous avez peut-être gagné par vos démonstrations. Vous feriez aussi bien de lire à un amant éperdument amoureux le catalogue des imperfections de sa maîtresse. Après l'avoir forcé d'en écouter l'énumération, vous ne pourrez en tirer d'autre réponse, sinon qu'il ne l'en aime que mieux. Je n'étais pas fâché d'avoir changé le cours mélancolique des pensées de la tante Marguerite, et je répondis sur le même ton. Oh, je ne puis m'empêcher d'être persuadé que notre bon roi est d'autant plus sûr de l'affection loyale de Mistress Boswell qu'il en a à sa faveur le droit de naissance d'Estuart aussi bien que celui qui résulte de l'acte de succession. Peut-être mon attachement prend-il sa source dans la réunion des droits dont vous parlez, et en est-il d'autant plus vif, mais sur mon honneur, il serait aussi sincère si le droit du roi n'était fondé que sur le vœu du peuple, comme il a été déclaré à la Révolution. Je ne suis pas de vos gens iure divino. Et néanmoins, vous êtes jacobite. Et néanmoins, je suis jacobite, ou plutôt, je vous laisse la permission de me mettre de ce parti, dont les membres étaient appelés le parti des fantasques du temps de la reine Anne, parce qu'ils se laissaient guider tantôt par leur impression, tantôt par leurs principes. Après tout, il est fort étrange que vous ne vouliez pas permettre à une vieille femme d'être aussi peu conséquente dans ses sentiments politiques que les hommes le sont en général dans les divers incidents de la vie. Vous pourriez m'en citer un dont les passions et les préjugés ne l'écartent pas continuellement du chemin que la raison indique. Cela est vrai, ma tante, mais vous êtes une de ces personnes qui s'égare à plaisir et qu'on devrait forcer de rentrer dans le droit chemin. Épargnez-moi, je vous en conjure. Vous vous rappelez cette chanson gaélique, quoique sans doute je prononce incorrectement les paroles. A-t-il-moi, a-t-il, Nodovskimi ? Je dors, mais ne me réveillez pas. Je vous assure, mon cher parent, que les rêves dans lesquels se complète mon imagination et ce que vous appelez les caprices de mon esprit valent tous les songes de ma jeunesse. Maintenant, au lieu de porter mes pensées dans l'avenir, de me former des palais enchantés sur le bord de la tombe, je tourne mes regards vers le passé. Je songe aux jours et aux usages de mon meilleur temps, et des souvenirs tristes et cependant consolants me deviennent si chers que je me dis presque que c'est un sacrilège d'être plus sage, plus raisonnable, moins rempli de préjugés que ce que je rêverais dans ma jeunesse. Il me semble que je comprends maintenant tout ce que vous voulez dire, et je conçois que vous puissiez préférer de temps en temps la lueur douloureuse de l'illusion à la lueur invariable de la raison. Lorsque les travaux du jour sont terminés, qu'il ne reste plus de tâches à remplir, nous pouvons, si cela nous convient, rester dans les ténèbres. Et c'est lorsque nous nous mettons à l'ouvrage qu'il faut demander des bougies. Et au milieu de cette obscurité, repris-je, l'imagination crée des visions enchantées et souvent persuade les sens de leur réalité. Oui, dit la tante Marguerite, dont la mémoire prouve qu'elle a lu les poètes, pour ceux qui ressemblent au traducteur du Tasse. Puissant poète dont l'esprit exalté croit les magiques merveilles qu'il chante. Il n'est pas nécessaire d'éprouver les sensations pénibles qu'une croyance réelle dans de tels prodiges occasionnerait. Une semblable croyance de nos jours est réservée aux esprits faibles ou aux enfants. Il n'est pas nécessaire non plus de ressentir dans vos oreilles une espèce de tintement et de pâlir comme Théodore à l'aspect du chasseur. Tout ce qui est indispensable pour jouir de la douce impression d'une terreur surnaturelle, c'est d'être susceptible d'un léger frémissement en écoutant un conte effrayant, un conte qu'un narrateur adroit, qui d'abord exprime son incrédulité pour toute légende merveilleuse, recueille et raconte comme ayant en lui quelque chose qu'il avoue, qu'il lui est impossible d'expliquer. Il existe un autre symptôme, cette hésitation momentanée à regarder autour de nous au moment où l'intérêt du conte est dans toute sa force. Et troisièmement, un désir d'éviter de regarder dans un miroir lorsque le soir on se trouve seul dans sa chambre. Tels sont les signes qui indiquent que l'imagination d'une femme est dans une disposition d'esprit favorable pour écouter une histoire de revenant. Oh, je ne prétends pas décrire ce qui indique la même disposition dans un homme. Mais ce dernier symptôme d'éviter un miroir, chère tante, doit être bien rare parmi le beau sexe. Vous êtes un novice dans les usages de la toilette, mon cher neveu. Toutes les femmes consultent le miroir avec anxiété avant de se rendre dans la société. Mais à leur retour, la glace n'a plus le même charme. Le dé a été jeté, l'impression qu'elle désirait produire a eu ou n'a point eu de succès. Mais sans aller plus loin dans les secrets des miroirs, je vous dirais que moi-même, ainsi que beaucoup d'honnêtes personnes, je n'aime point avoir un large miroir dans une chambre faiblement éclairée, où la lumière d'une bougie semble plutôt se perdre dans la profonde obscurité de la glace qu'en être réfléchie dans l'appartement. Cet espace rempli par les ténèbres est un vaste champ où l'imagination crée des chimères. Elle y appelle d'autres traits que les nôtres, ou bien, comme dans les apparitions de la veille de la Toussaint, elle nous fait apercevoir quelques visages inconnus, regardant par-dessus nos épaules. Enfin, lorsque je suis dans mes humeurs sombres, je prie ma femme de chambre de tirer le rideau vert sur le miroir de ma toilette auparavant d'entrer dans mon appartement, afin qu'elle ait le premier choc de l'apparition, s'il doit en avoir une. Mais pour vous dire la vérité, cette antipathie à regarder dans un miroir dans certains temps et dans certains lieux est fondée, je le suppose, sur une histoire qui m'est venue par tradition de ma grand-mère, qui joue un rôle dans la scène que je vais vous raconter.